travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de La Parole au Travail. Une émission en collaboration avec Le Ravi, le journal qui ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un extrait d'un livre. Je voudrais laisser parler Georges Navel, un ouvrier écrivain du début du siècle dernier, qui a fait tous les métiers de son époque. Navel raconte dans son livre, Travaux, toutes les joies et les peines, les plaisirs et les souffrances de ses travaux qu'il a exercés. Dans cet extrait, nous sommes dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Provence. Et Navel y parle de la joie de voir s'exercer, devant lui, avec lui, l'habileté et l'intelligence de son corps coupant la lavande. D'ordinaire, à la lavande, les coupeurs travaillent à la tâche. C'est une raison de s'appliquer à se rendre habile au jeu de ses mains, à manier avec légèreté la faucille, autant qu'à saisir les poignées d'épis coupés. Aussi, même quand on se tire très bien de ce travail, qu'on a le style d'un bon coupeur, on s'aperçoit que l'attention ne cesse de s'y donner. Que la perfection est un infini dont on est toujours éloigné. On tire sans cesse de ses gestes des sortes d'épreuves que l'attention s'applique à corriger pour les rendre plus parfaits, plus souples, plus efficaces. Les mains, les jambes deviennent des instruments au service de l'attention, mais qu'on pourrait aussi appeler l'intelligence ouvrière. Si l'on se sent vivre, si l'on s'observe en travaillant, on s'aperçoit qu'elle habite chaque mouvement. Elle est présence constante, que c'est elle qui tient vraiment compagnie aux lavandeurs qui coupent les épis. Sans elle, tout serait fastidieux, et longues les heures au soleil, dans la sueur, dans la rocaille à flanc de montagne. Aujourd'hui, écoutons deux postiers, ceux qui tous les jours distribuent notre courrier. Ces deux postiers sont, pour une fois dans cette émission, à la retraite. Ils l'ont aimé leur travail, il les a même rendus philosophes. Il leur a ouvert un monde. Mais quand ils l'ont quitté, ils ne le reconnaissaient plus. Ils ne s'y reconnaissaient plus. S'ils se disent encore postiers, ils refusent de n'être que porteurs de courrier. Avec nous, ils se retournent sur leur ancien métier, sur la lente transformation de leur travail. Écoutons ensemble ce qu'ont à dire ces facteurs à la retraite, sur ce qu'a été le travail à la poste, et sur ce qu'il pourrait être. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
C'est un métier qui rend philosophe, je pense. Enfin, il rendait. Maintenant, c'est un métier qui... C'est un beau métier. On pourrait appeler ça un beau métier. Mais actuellement, on ne peut pas appeler ça un beau métier. Par rapport aux conditions de travail actuelles, on ne peut pas considérer que c'est un beau métier. C'est un métier pénible. Est complètement dévalorisé. C'est-à-dire qu'on a transformé le facteur en porteur de courrier et en livreur de courrier, uniquement. Je regrette vraiment le temps où, justement, c'était un métier considéré, alors que maintenant, c'est plus considéré du tout. Quoi. Donc moi, je suis rentré à la poste en 1971, j'avais 17 ans donc. Et donc je suis rentré au centre de chèques postaux de Marseille. Et suite à ça, j'ai fait le service du télégraphe aussi, au Chartreux. Et puis après, j'ai intégré le service de la distribution. Jusqu'à ma retraite, je suis resté à la distribution dans le bureau du 4e. La prise de service se fait à 7h30 le matin. Et à l'arrivée, le courrier est trié dans les bacs. Donc chaque facteur récupère son bac de tournée et commence à préparer, disons, à classer son courrier pour la tournée. On récupère on fait ce qu'on appelle la fusion, quoi. On prend tout le courrier, on le trie dans l'ordre de la tournée. Donc après tout ça, on part en tournée, quoi. Donc vers 10h, je commençais la tournée. Et à chaque, je veux dire, chaque immeuble, donc, on distribue son courrier. Et en même temps, si on a des lettres commandées, il faut évidemment sonner chez les gens, éventuellement s'ils sont présents, monter à l'étage, faire signer la recommandée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la tournée. Quand on a fini la tournée, on rentre au bureau, et là, il va falloir rendre des comptes, c'est-à-dire ramener tout le courrier qui n'a pas été distribué, tous les objets spéciaux qui n'ont pas été distribués, qui ont été comptabilisés au départ. Et une fois tout ça effectué, évidemment, la journée est finie. Mais...
Je ne connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai adoré, oui. Franchement, au départ, t'es pas forcément... Enfin bon, moi, je suis pas d'une famille de postiers, il y avait rien. J'avais fait un peu de fac, un peu de machin, un peu de trucs. Je m'étais arrêtée pour ma gosse. Bon, bah, il se présente le concours, tu vois, je le passe, tranquillou, tu pars à Paris. J'étais en centre de tri, j'étais pas en district. Bon, l'ambiance me plaisait, c'est sympa. C'est vrai que c'est une grosse famille, là, j'ai découvert un esprit poste. Et bon, après, je suis redescendue sur Marseille, Et j'adorais ça, faire les colis, découvrir les rues. Parce qu'en plus, non seulement tu découvres des gens rares, et tu découvres des lieux. Alors maintenant, je le vois refait, les nouveaux docks, là, les nouveaux en face des terrasses du port. Moi, je rentrais là-dedans, c'était sordide, j'avais peur et tout. Mais il y avait quand même un truc un peu, non, je ne sais pas, des petits trucs que tu n'y penses pas avec des maisons, des appartements. Le panier, par exemple, moi, j'ai fait longtemps le panier en voiture. Mais c'est... Alors, il y avait les rues, un peu... Pas bobo, à l'époque, ça n'existait pas. Mais super sympa et tout. Avec la violence du quartier, quand même, un peu. Puis d'autres endroits où... Eh bien, ça, c'est des découvertes. Parce que même pas aucun touriste, même à l'époque, s'il y en avait moins... Non, ça, je trouvais ça fabuleux, moi. Des petites impasses, des petites villas, des villas avec des terrains et tout, là. Ah, j'adore ça. J'adorais ça. Et donc, même sur les dernières tournées que j'ai faites, où je connaissais pas, où je connaissais pas les usagers particulièrement et tout, oui, j'arrivais à créer. J'arrivais pas à perdre cette essence, ce cœur de métier de pas communiquer un minimum avec les gens. Ouais, ça j'aimais. Ah, quand même, une des tournées sur les secteurs que j'avais, je finissais au Palais Longchamp. Ben, cette tournée, tu finis au Palais Longchamp. T'as vu? Eh bien, je m'en suis jamais lassé pendant 3-4 ans, là. Franchement, je me régalais, tu vois. C'est magique, hein, vraiment, entre certaines petites trucs, petites impasses, petits machins. Ça, c'est magnifique aussi.
Ça veut dire qu'on rencontre toutes sortes de gens, toutes les couches sociales. C'est ça qui est intéressant dans le métier aussi, de découvrir différents univers. Ce qui rendait ce métier social, je veux dire, qui faisait qu'on avait une motivation supplémentaire pour faire ce métier, quoi. Avoir l'impression d'apporter quelque chose à la personne, quoi. Ce qui était le beau côté du métier.
Tu vois tout, tu vois les taudis, les palais, mais tu vois, quand on parle du contact avec les gens, c'est que toi, tu leur apportes, mais il y en a qui t'apportent, parce que moi j'ai connu une mémé, par exemple, qui avait une bibliothèque. Alors, moi, j'adorais aller chez elle, mais bon. Alors, elle parlait philosophie, moi, c'est une matière que j'aimais bien. C'était pas ostentatoire, c'est méthode, tu vas employer un mot à un moment, ah, oh, tiens. Et elle te racontait sa vie, elle était fabuleuse. Bon, ben, enfin, je sais pas, elle était riche d'elle-même, quoi. Ah, dis donc, 80, je sais pas combien d'années, elle était un peu isolée, c'était son plaisir, c'était la lecture, c'était l'écriture, elle écrivait extrêmement bien. Et tout ça, moi, j'adorais ça. Des gens que personne ne soupçonne, je veux dire, faut pas croire, mais il y avait richesse ou pauvreté, mais culturelle aussi, hein. Et justement, c'était des fois sens inverse, socialement parfois. Mais des gens, alors toi, tu leur apportais et eux, ils te le rendaient, mais c'était... Ouais, c'est vrai que c'est bien. Là, tu vois, je suis à la retraite, ça me met la chair de poule, je te jure. Parce que je me rappelle de certaines personnes, enfin, de plusieurs personnes avec qui c'était... Oh, parfois, t'assistes à des drames. Et ça, il a raison, des drames sociaux, mais... Et là, tu peux voir des descentes aux enfers, ouais.
Dire qu'aussi bien le très beau que le très laid. Donc, je veux dire, on est en prise directe avec le monde comme il est aujourd'hui. C'est enrichissant, hein. Tous les jours c'est enrichissant, et puis ça ouvre l'esprit, quoi. On arrive à avoir une vision des choses plus large, quoi.
Nous, enfin, je veux dire, chez les anciens, pour nous, moi j'adorais ce boulot. Franchement, parce que justement, t'as un contact, t'as un lien, tu parles, c'est vraiment un boulot, c'est un boulot amusant, enfin amusant. Je veux dire, de par les contacts, c'est fatigant, mais c'est vraiment valorisant, c'est très plaisant. Moi, je trouvais ça fabuleux. Tu vis des situations, tu rentres dans l'intimité des gens, mais l'espace de quelques minutes, c'est fort.
Ah oui, moi j'aimais ça, mais à l'époque, je veux dire, à l'époque où on avait le temps justement d'avoir ces relations avec les gens. Parce qu'actuellement, enfin, les derniers temps où j'ai travaillé, c'était pas possible. Ce qu'il y avait en tête, c'est vite faire pour arriver à finir dans les temps. Donc, partant de là, il est évident que la relation avec l'usager, elle est moindre, quoi. C'est devenu un porteur de courrier et livreur de courrier, quoi. Ce qui est totalement dommage par rapport au métier comme il était il y a quelques années, qui n'avait rien à voir avec le métier d'aujourd'hui. Ce qui a nuit au métier, c'est l'introduction de la notion de rentabilité. C'est exactement ça. Toutes les tournées ont été modifiées par rapport à ça. C'est-à-dire, on a voulu gagner au plus juste pour pouvoir, pour pas perdre d'argent, quoi. Un service public doit être au service du public et l'agent qui effectue ce service doit avoir le temps de rendre ce service, justement. Il y a des services qu'on rendait à l'époque gratuitement, gracieusement. Et aujourd'hui, tous ces services, il faut qu'ils soient facturés.
Mais là, pour compléter Jean-Paul, tu vois, par exemple, actuellement, il y a la grosse pub à la télé sur la visite des facteurs chez les personnes âgées.
Lui, c'est mon père. Et lui, c'est Julien. Il ne vient pas que pour le courrier, il vient passer un peu de temps avec lui. Avec le service Veiller sur mes parents, c'est simple. On choisit 2, 4 ou 6 passages par semaine. C'est une visite régulière et rassurante. Après chaque visite, Julien m'informe sur mon smartphone du déroulement de celle-ci et me prévient des besoins exprimés par papa. Tout cela pour 59,90€ par mois, bénéficiant de 50% de réduction d'impôt, soit 29,95€ par mois. Je suis rassurée, et papa aussi.
Moi, je suis désolée. En ville, déjà, nous le faisions. Tu prends un facteur en campagne. Moi, j'ai des amis facteurs dans le Haut-Gard ou dans le Gers. Ils continuent à le faire. Mais ça ne va pas coûter 30€ à la famille. Je veux dire, ils continuent à passer, même s'il n'a rien pour son pépé ou sa mémé. Eh bien, ils passent quand même. Et moi, les trois amis que j'ai en extérieur, citadine, qui sont en campagne, n'importe. Et en ville... En ville, nous, dans les anciens facteurs, on a d'anciens collègues qui continuent régulièrement, qui surveillent si la mémé... Ben, moi, au Chartreux, une fois, c'est arrivé, effectivement, où la boîte était pleine. La voisine, j'ai sonné à la voisine, je ne trouvais pas. Ben, effectivement, la dame était décédée depuis plusieurs jours. C'est vrai que c'est des trucs qu'un facteur voit. Ben, ça va être payant, c'est-à-dire les enfants vont appeler la direction. En fait, la poste, elle se sert de tout. Les petits services que rendait le facteur par amitié, par empathie avec ses clients, eh ben, tous ces petits services deviennent payants. Elle n'a rien inventé, hein, la Poste. Elle ne se sert que de l'expérience des anciens. Tout est payant, tout est à acheter. Après, après, bon, tu fais autre chose, mais tu as des personnes qui ont des santé plus fragiles, qui ont été obligées, oui, de s'arrêter tout, oui, oui, oui. Ou d'être en cabine, ou d'être, oui, voilà. D'être reclassé, si la poste y arrive, parce que c'est de plus en plus dur, mais tu vois des personnes, mais... Et puis, moralement, moi, la pénibilité physique, c'est une chose. Mais là, ces dernières années, à part les trois dernières, où je reconnais on a été plus gâtés par le directeur, par Monsieur X. Voilà, il avait une méthode managériale qui nous respectait. Mais les sept dernières années auparavant, on a vraiment, vraiment eu un management terrible. Terrible, c'est-à-dire tous les matins... On était des nuls, on nous considérait comme nuls. Tous les matins, tu avais des nouvelles consignes de personnes qui ne connaissent rien. Tu avais beau protester, c'était comme ça, c'est point barre. Ça ne tenait plus la route. C'était... Ah non, non, c'était d'une... Là, ça, c'était pénible.
De ne pas arriver à faire sa charge de travail dans les temps voulus, on était considérés comme des gens inadaptés. Ils nous disaient, vous n'êtes pas capable de faire votre travail comme il faut parce que vous n'arrivez pas à finir dans les temps. Alors que... Je veux dire, c'est la cause de ça, c'est pas l'agent, c'est la charge de travail qu'on lui donne. Donc, mais ça, c'était pas considéré, quoi. Le directeur, avec un objectif, c'était de faire rentrer les gens dans ces temps de travail. Tant bien que mal, même si on n'arrivait pas, mais tant pis pour nous. Mais c'est-à-dire, après, les agents, ils voulaient absolument aussi finir leur travail dans les temps, donc pas faire des heures en plus pour rien. Donc ça mettait la pression. Et le travail, on le faisait peut-être moins bien parce qu'on voulait faire plus vite. Ah ben, c'est-à-dire, ramener du courrier, par exemple, qu'on aurait pu distribuer si on avait passé 5 minutes de plus à chercher une boîte qu'on ne trouvait pas, par exemple.
Nous, on faisait partie d'un corps de métier, je pense, où on était vraiment respecté. Là, c'était l'irrespect, voilà. Tu te sentais infantilisé. Et l'irrespect de toi, quoi, je veux dire. Parce que moi, je sais que ma tournée, une fois que je l'avais commencée, je voulais la finir. Ben, je suis restée quand même en dépassement. Alors, c'est pas dehors hein, où tu perds du temps. C'était moins beaucoup la préparation, bon, peu importe. Mais je reconnais que j'ai bossé gratos pour la poste, mais des heures entières. Parce que sinon, c'est l'usager qui est pénalisé. Il n'a pas son courrier. Il n'a pas son... Ah non, non, c'est... Donc, tu dépasses. Enfin, moi, je dépassais, voilà. Mais chacun fait ses choix. C'est... Mais en attendant, tu rentres chez toi, il est 4 heures, et moi, le matin. Alors, en plus, pour peu que tu contestes un peu. Moi, j'étais un peu contestataire. Je reconnais tout. On te prend à partie, des fois, dès le matin. Mais alors, on t'appelle par ton nom de famille. Bon, ça, c'est pas gênant. Il n'est pas honteux. Mais enfin... Sur un ton un peu comme ça, après, bon, bref. Et là, ça, c'est pesant. Moi, c'est le mépris. Quand tu te sens méprisé, que tu te sens... Là, ouais. Là, j'ai pleuré souvent, ils m'ont consolé souvent, je peux te le dire. Hein. Peut-être, je déteste, pour moi, c'était humiliant. Mais bon, nous, c'est vrai que, vu qu'on est beaucoup en extérieur, notre grosse partie de boulot, elle est quand même dehors. Quand tu sors du bureau, tu n'es plus confronté à ça. Donc, on n'était pas... Puis bon, c'est vrai qu'on estimait que quand même, on était grand, majeur, qu'on avait un métier. Si simpliste, paraît-il, pourrait-il comme ça être perçu, ce qui est faux, beaucoup de gens le découvrent après. C'est sûr que bon, on n'est pas ingénieur ni rien, on est facteur. Mais on avait quand même conscience de faire un beau boulot parce que tu as quand même une déontologie dans n'importe quel boulot. Et ça, ce boulot-là, tu veux qu'il soit reconnu. Eh bien ça, on avait beau bien le faire, ça ne l'était plus. Et ça, c'est très pénible pour n'importe quelle personne. Hein. On était des petits facteurs. Là, on était vraiment... Enfin, moi, c'est le ressenti que j'avais, c'est qu'on était des moins que rien. Presque, on ne servait plus à rien à la poste.
Ce bouleversement, on peut appeler ça un bouleversement, entre les conditions de travail et le travail comme on l'effectuait à l'époque et comme... On nous demande de l'effectuer aujourd'hui. Je veux dire, ça c'était un bouleversement total, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à des gestions comme ça. Avant, on était carrément autonome. C'est-à-dire qu'on faisait son travail et personne n'était derrière nous pour nous dire, tiens, ça, il faut le faire comme ça, il faut le faire plus vite, ou il faut faire comme ça et pas comme ça. Donc, on était autonome et on faisait notre travail comme on le voulait. Sans qu'on ait de consignes parce qu'on connaissait notre boulot, quoi. On n'avait pas de consigne à recevoir d'un supérieur pour nous dire ça, il ne faut pas le faire comme ça, il faut faire comme ça. On était libre de nos actes, quoi. Tandis que là, il faut rentrer dans des règles et distribuer, et rentrer dans des temps de distribution. Je veux dire, tout est calibré, tout est... Ce qui change totalement la façon de travailler, quoi. D'une façon autonome qu'on était à l'époque, là, on devient un agent qui doit obéir aux règles strictement, aux strictes règles, quoi. Je veux dire, faire son travail en regardant la montre en permanence, puis la relation qu'on avait avec l'usager à l'époque, c'est une relation quotidienne. Tandis que moi, les derniers temps, j'avais des relations avec personne. Je traçais tout droit pour arriver à finir dans les temps. Et encore, je dépassais largement des fois. Donc, je veux dire, ce qui était pénible à supporter, quoi. Je veux dire, quand pendant des années, on a travaillé d'une manière que de jour au lendemain, on nous dit non, maintenant, vous allez travailler comme ça et il n'y a pas de discussion possible, quoi. Ça venait d'en haut et on n'avait pas notre mot à dire. C'est-à-dire, il n'y a plus cette relation entre les gens. C'était un boulot qu'on est au bureau dans son casier et en tournée, on doit filer vite pour arriver dans les temps. C'est ça qui ça enlève tout le côté social du métier. Tous les liens qu'on pouvait avoir avant, qu'on n'a plus actuellement.
Il y a ça, il y a, tu vois. Alors en plus, toi, on te fait comprendre que tu es incompétent ou enfin que tu ne sers pas à grand-chose. Sachant que dans la gestion, là où Jean-Paul a raison, la gestion, tu sentais qu'elle était bancale. Moi, j'ai eu couvert des tournées qui n'avaient pas été faites plus de presque de la semaine. Mais une tournée pas faite, tu te rappelles, c'était à 14. Alors, à l'époque, je suis sortie avec le grand patron de la poste qui m'a accompagné. Ça, et j'avais sorti, quoi, beaucoup, mais... Elle avait décidé, à l'époque, la personne qui nous dirigeait, avait décidé que, ben non, ben, s'il n'y avait personne, eh ben, on ne remplaçait pas. Alors, ça faisait déjà depuis l'ancien patron aussi. Les tournées n'étaient plus systématiques. Sachant que la nouvelle formule des postes, avec une équipe, un facteur d'équipe, dont était Jean-Paul ou un facteur qualité avec moi, c'était la cerise sur le gâteau. Jamais plus une tournée ne serait dite à découvert, c'est-à-dire non effectuée, parce que tu avais un facteur qualité qui était là, ta, pour remplacer. Or, c'est faux. Et tu as toujours des absences, des maladies, justement, de par la pénibilité, du ci, du là, des déprimes, des machins. Et tu as des tournées qui n'étaient pas couvertes 3, 4, 5 jours d'affilée, la même tournée. Moi, je veux dire, la première équipe que j'ai, à laquelle on appartenait tous les deux, réellement, j'ai passé mon temps à récupérer des tournées, enfin, essayer, parce que voilà, mais qui n'étaient pas faites. Il n'y avait plus que 2 facteurs titulaires dans cette équipe. 2. Après, tu n'avais que des contractuels. Un avait eu un accident de travail, l'autre était en dépression, l'autre était... On n'avait plus de... Et nous deux étions titulaires, mais bon, on avait un rôle un petit peu à part. Ben, mais 2 facteurs qui restaient sur leur tournée. Alors, là, notre bureau à nous a fait énormément d'efforts. Mais jusqu'à il y a 3 ans, c'était monnaie courante. Maintenant, je suis à la retraite, je vis dans un village. Je peux te dire que moi, sur la tournée que doit effectuer la petite factrice qui est blessée, je n'ai pas eu de courrier 4 jours. Même moi, ancien facteur, à un moment, j'ai quand même fait halte là. Est-ce qu'on pourrait avoir du courrier? C'est pas typique à notre bureau, hein. Mais ça arrive très, très fréquemment à la poste.
C'est-à-dire, quand on voit ça, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, ça n'existait pas, ça. Des tournées qui n'étaient pas faites un jour ou deux, ça n'existait pas. Donc, quand on est passé dans le nouveau système, c'était monnaie courante, quoi. Et donc, je veux dire, partant de là, on a l'impression que les dirigeants ne se préoccupent pas de la qualité de service. En fait. Ils s'occupent de la rentabilité, évidemment, mais de la qualité de service, alors qu'on exige tous les jours de l'agent, du facteur qu'il fasse une bonne qualité de service. De notre côté, les moyens pour effectuer cette qualité de service, on ne les a pas, quoi. On ne les a pas. Donc, c'est ce qui fait que, je veux dire, après, la motivation pour bien travailler, je veux dire, quelquefois, elle disparaît. Et on a l'impression, c'est peut-être une impression, mais qu'au-dessus, les instances supérieures, ça ne les dérange pas. Ils seront plus attachés à un problème de rentabilité, justement, que de ce problème de qualité de service. Quoi. Là, ça ne cadre pas, je veux dire.
J'en avais un peu marre. Là, il y avait une prochaine réorgue, donc puis ça s'appelle une des réorganisations dès que ça allait mal, qui se profilait. J'avais plus envie, là. J'avais plus envie de me battre, oui, parce que ça, j'ai toujours fait, mais même, ça fatigue, même ça. Parce qu'on a l'impression, tu vois, alors quand tu te bats, etc., tu passes des jours en grève, tu fais ci, tu fais là, il y a les prises de parole, tu vas... C'est intéressant, certes, mais c'est usant. Franchement, moi, s'amuser. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Paul, moi je ne suis pas optimiste. Moi j'aurais un gosse maintenant qui a du mal, mais que je sais dégourdi et tout ça, je lui conseillerais quand même pas ce boulot. Pour ça, parce que non, c'est... Et puis bon, je veux dire, tu n'as aucune perspective de carrière. Nous, on a des collègues, hein. Ils ont commencé... Alors anciennement, c'était préposé, après ils se passent à agent, mais tu as... Une prise de grade hein, sur une carrière entière. Enfin, quelques collègues, ils partent, ils ont pris un galon en 40 ans de carrière. T'as aucune chance de... Bon, nous, les deux grades, c'est à l'époque où il y avait encore un peu des concours internes, des trucs, des machins, etc. Mais tu n'as plus ça. Et les gars, ils s'en vont, mais vraiment... moi, je pense 1500, hein... 1500, 1600, pas plus. Hein.
Si tu as une carrière complète, tu arrives à 1007.
À combien t'as fini
1008.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.